Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Vous écoutez
RMC.
Précisément 8h sur RMC et sur RMC Story. Soyez tous les bienvenus tout de suite. Le journal avec Marguerite Dumont. Bonjour Marguerite.
Bonjour Sébastien. Bonjour à tous. C'est du concret. Une prime pour les Français les plus modestes à la rentrée. Une des grandes mesures pour le pouvoir d'achat votée cet après-midi au Parlement. La Chine tire des projectiles vers le détroit de Taïwan depuis le départ de Nancy Pelosi hier. Pékin multiplie les actes d'intimidation. Et le foot, reprise de la Ligue 1 demain pour l'OM. Une rentrée tendue. Ça ne passe pas entre les joueurs et le nouvel entraîneur.
Une prime exceptionnelle sera donc versée à de nombreux Français à la rentrée.
Montant total de l'enveloppe, 1 milliard 100. Un accord a été trouvé entre les sénateurs et les députés hier dans le cadre des débats sur le pouvoir d'achat. Le vote final, une formalité, aura lieu cet après-midi. On vous en dit plus ce matin sur RMC. Bonjour Garance Munoz. Qui va recevoir cette aide ?
Eh bien, en premier lieu, ce sont les bénéficiaires des minima sociaux, c'est-à-dire les personnes qui touchent le RSA ou l'allocation aux adultes handicapés, par exemple. Eux toucheront une prime de 100 euros. Mais les travailleurs modestes éligibles à la prime d'activité sont également concernés. Ils toucheront aussi une prime. Reste encore à déterminer le montant exact. De quoi satisfaire Aurélien Pradier, député du Lot et secrétaire général des Républicains.
Ça va évidemment aider les plus modestes, mais ce n'est pas suffisant. Le Sénat a voulu restreindre les bénéficiaires en opposant les plus modestes les uns aux autres, ce qui est assez choquant. Il faut que cette indemnité puisse aller au plus grand nombre possible, puisque je rappelle qu'il y a 9 millions de pauvres dans notre pays. Il s'agit de les aider et surtout pas de les opposer entre eux.
Des mesures qui ne vont pas assez loin, donc, dénonce Jean-Baptiste Beau de l'association Famille Rurale. Mais pour Aurélien Pradier, député du Lot, c'est une bonne chose.
C'est plutôt heureux que nous ayons pu tordre le bras du gouvernement sur un certain nombre de sujets. Ça ne veut pas dire qu'on rentre dans une majorité. Ça veut juste dire qu'on s'intéresse à la vie quotidienne des Français et que nous voulons être des députés utiles. Qu'on ait réussi à tordre le bras du gouvernement, je le redis, c'est une bonne nouvelle. Pas pour nous, mais pour les Français, et c'est ce qui compte.
Autre sujet qui a fait l'objet d'un compromis, la monétisation des RTT que le Sénat voulait pérenniser. Les entreprises volontaires pourront racheter les RTT des salariés prêts à travailler plus jusqu'en 2025 finalement.
Merci beaucoup Garance. Ces mesures complètent un premier volet adopté hier, volet qui comprend notamment le triplement du plafond de la prime Macron, l'augmentation de 4% des pensions de retraite et la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé. Le pouvoir d'achat n'attend pas. L'audit énergétique pour la location de vos biens, un peu plus. Vous allez comprendre pourquoi. Report en avril 2023. Annonce du ministre du Logement, c'est la troisième fois. Selon le gouvernement, la mise en place se fait difficilement, Florian Chevalet.
L'objectif de cet audit est d'informer l'acheteur d'une maison ou d'un appartement des travaux à réaliser pour que le bien ne soit plus considéré comme une passoire énergétique. Mais ça ne sera donc pas pour tout de suite, puisque selon le gouvernement, il n'y a pas assez d'entreprises pour réaliser ce diagnostic, ce que dément Thierry Marchand, l'un des administrateurs de la Fédération nationale de l'immobilier, qui dénonce un délai de mise en œuvre beaucoup trop court.
C'est pas une question de nombre, on a les effectifs, c'est surtout une question de... on n'a pas l'outil. Déjà, pour pouvoir rendre un audit énergétique, il nous faut un outil. Ça doit suivre une trame. Donc, tout ça, en l'espace de quelques semaines, c'est trop court. Donc, nous, professionnels du bien aussi, qu'on préfère que la date soit évidemment reportée, puisque c'était plus tenable.
D'autres professionnels contactés dénoncent une décision déplorable au vu du retard de la France sur la transition énergétique des bâtiments. Un argument repris par Sandra Regol, députée Europe Écologie Les Verts de la première circonscription du Bas-Rhin.
Même sur la base de la base, à savoir où sont les passoires thermiques et lutter contre elles, même là-dessus, le gouvernement considère que ce n'est pas une urgence.
De son côté, le gouvernement assure que ça ne remet pas en cause le calendrier de la loi climat, qui prévoit entre autres l'interdiction de mise en location des passoires thermiques à partir de 2025.
Surtout que limiter sa consommation d'énergie est particulièrement urgent en ce moment. On le voit, on est en train de vivre la troisième vague de canicule de l'été et la sécheresse aussi est toujours très intense. 60 départements sont placés au niveau d'alerte maximale. En bref, dans l'actualité, le choc à Bergerac au lendemain de l'explosion dans une poudrerie. Le site était classé Céveso seuil haut. 8 personnes ont été blessées, dont une grièvement, et on ne connaît toujours pas les causes de l'accident. Le danger est en tout cas écarté pour la population et une enquête est ouverte. Patrick Balkany va savoir s'il sort ou pas de prison aujourd'hui. Incarcéré depuis février à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, l'ex-maire de Levallois sera fixé sur son sort après 5 mois d'une longue bataille judiciaire. Il sera décidé s'il reste en détention ou s'il peut sortir avec un bracelet électronique. Je vous le rappelle, l'ancien baron des Hauts-de-Seine et son épouse Isabelle Balkany ont été reconnus coupables de ne pas avoir payé d'impôts sur la fortune et d'avoir payé un impôt sur le revenu amplement sous-évalué entre 2009 et 2014.
Il est 8h05 sur RMC. Après la visite très controversée de Nancy Pelosi à Taïwan, la Chine se montre particulièrement agressive.
Hier, 27 avions militaires chinois sont entrés dans la zone de défense aérienne de l'île. Et depuis quelques heures, Benoît Ballet, de nouveaux exercices militaires ont commencé.
Oui, plusieurs projectiles tirés à proximité d'installations militaires chinoises, des projectiles non identifiés tirés en direction de Taïwan, des tirs suivis de panaches de fumée blanche. Plus tôt ce matin, des hélicoptères militaires chinois ont été aperçus survolant le ciel en direction de l'île. Selon le Global Times, un quotidien chinois connu pour son ton nationaliste, ces exercices sont d'une ampleur sans précédent car pour la première fois de l'histoire récente, des missiles vont survoler Taïwan. En réponse, les forces armées de Taïwan affirment ce matin se préparer à la guerre sans chercher la guerre. Le porte-parole du ministère taïwanais de la Défense dénonce un acte irrationnel visant à défier l'ordre international. L'Union européenne comme l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est condamnent à l'unisson cette escalade dans le conflit.
Benoît Ballet pour RMC. Le Liban commémore aujourd'hui l'explosion du port de Beyrouth qui a fait 200 morts et 6500 blessés. C'était il y a 2 ans. Des experts indépendants des Nations Unies et des ONG ont appelé à lancer une enquête internationale. Enquête au point mort depuis fin 2021. Personne n'a été jugé.
8h06 sur RMC. Le foot, c'est la reprise de la Ligue 1. C'est demain soir. Ce sera évidemment à suivre sur RMC. Dans les vestiaires de l'OM, déjà beaucoup de tensions.
On peut dire que ça ne passe pas entre les joueurs et le nouvel entraîneur Igor Tudor, qui est considéré comme trop cassant, trop autoritaire. Clément Brossard, pour éviter que ça tourne au vinaigre, hier, le président du club a pris la parole.
Oui, mardi, le président de l'OM, Pablo Longoria, a rencontré ses joueurs pour leur rappeler leur devoir d'exigence. Face aux médias hier, il a soutenu et défendu son entraîneur, déjà critiqué par une partie de son vestiaire.
Il y a les clubs, il y a l'entraîneur et il y a les joueurs. Tout changement, il faut mettre du temps à s'adapter. C'est sûr qu'on ne va pas juger les vrais Olympiques de Marseille et d'Igor Tudor dans les mois de septembre. On a parlé depuis les premiers jours d'exigence, de travail, de discipline et de tout le monde prend la même direction. Mais nous, comme club, nous sommes les premiers qui nous sommes sûrs du chemin qu'on a pris.
Arrivé cet été à Marseille, comme son entraîneur Jonathan Clauss a assumé certains désaccords au sein du groupe avant de chercher à clarifier la situation.
Il y a des discussions, il y a parfois des incompréhensions. À chacun de ses et aujourd'hui, on est tous clairs sur le discours établi par le président, par le club, par le coach, par les joueurs. Il y a parfois des choses qui titillent un petit peu, mais il y a de la fatigue, il y a beaucoup de nervosité. C'est des choses qui font partie du foot. Et nous, on a discuté entre hommes et on a réussi à tout mettre à plat.
Dimanche soir, pour leur première journée de championnat face à Reims au stade Vélodrome, joueurs et entraîneurs marseillais devront faire corps s'ils ne veulent pas plonger dans un début de crise, la saison à peine entamée.
On va passer un petit moment, nos amis les bêtes, pour apaiser tout le monde. Ça fait toujours du bien. On se pose la question sur RMC, que faire de son chien quand on va à la plage? Selon l'IFOP, plus de 80% d'entre nous aiment ces petites bêtes, mais quand ils viennent se secouer après leur bain tout près de notre serviette, là c'est un peu plus compliqué. À la Grande Motte, chien et plagiste cohabitent ou se supportent? Lucille Pascanet vous raconte.
Des dizaines de chiens jouent dans l'eau et sur le sable. Maëlys sort des vagues avec son malinois Seco.
Il est trop content, dès qu'on arrive sur la plage, direct, il court dans la mer.
Elle aussi est très heureuse de pouvoir l'emmener sur la plage.
Souvent les chiens sont refusés, donc du coup ils sont à l'emplacement, parce qu'en ce moment on est au camping, donc ils font rien et ils sont en plein soleil, les pauvres. Là on vient les rafraîchir et puis en même temps nous on peut s'amuser avec eux quoi.
Yanis tient son Rottweiler en laisse, pas question non plus pour lui de partir en vacances sans son chien.
Il a droit à ses vacances aussi.
Et pour ça il est prêt à faire des sacrifices.
La location elle se fait par rapport aux chiens. J'ai payé plus cher pour prendre mon chien avec moi. Mais il n'y a pas le choix, et c'est très bien.
Les maîtres et les animaux ne sont acceptés que sur une portion de la plage. Et c'est déjà bien assez pour Lamia, qui vient d'avoir une mauvaise expérience en allant se baigner dans la mer.
On a trouvé des besoins de chiens à l'intérieur. Donc non, ça c'est l'erreur. Que je nage et je trouve quelque chose à côté de moi, non. Je n'ai changé la plage tout de suite.
Elle est venue s'installer juste à côté de Sofia. Ici, pas de chiens, et heureusement pour elle.
Je ne vais pas du tout être à l'aise. Je trouve que c'est un peu manque d'hygiène. Ils vont venir se sécher près de nous. C'est pas top.
Seulement 4 plages sont accessibles aux chiens dans le département de l'Hérault.
Voilà, la plage avec nos amis les bêtes pour terminer ce journal de 8h signé Marguerite Dumont. Merci, les 8h10 sur RMC.